بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. بشيف خير. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de reprendre donc ces cours de tafsir après une longue interruption, donc due aux vacances. Et donc, avant les vacances, nous avons terminé Idha as-samaa' unshaqqat, surat al-inshiqaq. Et là, alhamdulillah, nous commençons surat al-mutaffifin, traduit par les fraudeurs. Dans les premiers versets, Allah Azza wa Jal met en garde une catégorie de personnes. Wailul lil-mutaffifin, malheur aux fraudeurs. Et quand Allah Azza wa Jal met en garde une catégorie de personnes en les qualifiant d'un nom, d'un adjectif, Allah Azza wa Jal va ensuite développer. Qui sont les fraudeurs ? Frauder, c'est quoi ? Frauder, c'est tricher. Frauder, c'est mentir, c'est faire croire quelque chose qui n'est pas réel. Donc on va avoir les explications avec les versets qui viennent. On va se rendre compte d'une spécificité du Coran, c'est qu'il y a des fois où Allah Azza wa Jal donne un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala cite un exemple, et l'exemple est compris de tous, l'exemple est connu de tous, l'exemple est vérifié auprès de beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui est vécu, qui est donc accessible aux esprits. Mais à travers cet exemple, Allah Azza wa Jal certes parle de des personnes qui font ce péché, mais c'est un exemple. On ne dit pas que c'est une métaphore, parce que c'est une réalité pour les gens qui font cette action, mais c'est également une leçon pour toutes les personnes qui font des actions en rapport avec l'exemple cité dans laquelle il y a ce qu'on appelle une fraude. Mais on va voir que le terme fraude, hein, c'est vraiment un terme français qui n'est peut-être pas le meilleur, pas le plus adapté, mais encore une fois, l'arabe n'est pas une langue qui peut être traduite. On ne traduit pas l'arabe littéralement. On ne pourra jamais retrouver le sens exact d'un mot arabe si on traduit en français, en gujarati, en urdu, en anglais, en espagnol, quelles que soient les langues, parce que c'est vraiment une langue particulière. On va voir quel est le sens du mot fraude. C'est pas frauder, tromper, voler, mais il y a d'autres choses aussi. Plus en rapport avec la spiritualité, hein, des cas de figure qu'on n'imaginait pas. On continue donc. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Donc on reprend malheur aux fraudeurs qui, virgule, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Là on parle de quelle mesure là? Quand on va acheter, bon, certes l'exemple, hein, et on peut le comprendre aujourd'hui, mais il n'y a peut-être plus beaucoup de gens qui achètent des choses en pesant, mais à l'époque, oui, on achetait tout, enfin, même de nos jours, hein, quand vous achetez de la viande, excusez-moi, de la viande, du poulet, ou des, pour ceux qui vont faire les courses, c'est d'accord, on pèse, d'accord? Mais à l'époque, hein, des sahaba, à l'époque où le Coran est révélé, hein, la pesée des marchandises, c'est quelque chose qui est au centre de la vie économique. Et donc, c'est quelque chose qui est compris des maquis, des madanis, et de tous les arabes, et du monde entier. Donc, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Il y a avant de faire le tafsir, très rapidement, on explique le verset en français. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vont acheter quelque chose, ils exigent que la marchandise soit pesée au gramme, au milligramme près. Surtout ne me volez pas, je ne fais preuve d'aucune. Je suis exigeant sur le produit, sur la qualité que vous allez m'offrir, sur la quantité, je ne négocie pas. Il me faut mon droit à 100%. Mais, et qui lorsque eux-mêmes pèsent, eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perd. Mais quand c'est eux qui vendent, là ils trompent le prochain. C'est-à-dire qu'ils font aux autres ce qu'ils n'acceptent pas qu'on fait à eux-mêmes. Donc il y a de la fraude, il y a de la tromperie, il y a du mensonge, il y a du vol, il y a de l'hypocrisie. Il y a quatre choses dedans. Il y a du mensonge, il y a du vol, il y a de la fraude, il y a de l'hypocrisie. Je veux que moi j'ai mon droit à 100%. Mais quand c'est un autre, là on essaie de tricher. Et la mise en garde, Allah Ta'ala rappelle alors les gens qui agissent de la sorte, « Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun » Cela, ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Et ça, c'est un verset de base. Ce verset-là, hein, je pense qu'il faut faire une petite liste des versets électrochoc. Ça, c'est du 10 000 volts. Ça fait lever un troupeau de bœufs endormis. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ce verset-là, on peut le lire devant n'importe quelle personne qui est dans les péchés, dans l'erreur. On voit des gens qui font le zina ou qui boivent de l'alcool et tout. On peut dire à ces gens, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Est-ce qu'ils ne pensent pas? Est-ce qu'ils ne réalisent pas? Est-ce qu'ils ne sont pas conscients qu'un jour ils seront ressuscités? Oh mon frère, oh ma sœur, toi qui vis dans l'insouciance, toi qui vis dans le zina, dans l'adultère, toi qui vis dans l'illicite, dans la consommation de stupéfiants, de drogues qui volent, qui trompent les gens, tu penses que tu vas vivre éternellement? Non, la personne sait qu'un jour il va mourir. Première étape déjà, la personne sait qu'un jour elle meurt. Mais quand tu meurs, est-ce que tu crois que tout est fini? Comme les polythéistes, aïda kunna turaban wa idaman aïna la mab'uthun, pour eux c'était pas possible. Quand on meurt, le corps pourrit, le corps, contre la bonne intention, le corps est réduit en cendres, en poussière, et puis ça disparaît et c'est fini. Il n'y a pas de l'au-delà, il n'y a pas de akhirat. Si quelqu'un ne croit pas au akhirat, il mange, il boit, il vole, il tue, il trompe, peu importe. Pas comme dit, il y avait une personne qui, subhanallah, une connaissance, une personne habituée de faire des petites tricheries, pas musulmane, hein, mais la personne dit son grand hadith de base pour lui c'est pas vu, pas pris. Il n'a pas trouvé à moi, pas trappe à moi, c'est bon, on continue. Trace mon chemin, pas vu, pas pris. D'accord? Mais celui qui a iman, celui qui a la foi dans son cœur, il sait que quand on meurt, on est enterré, ça ne se termine pas, non. Au contraire, c'est là que tout commence. Là, c'est le monde du natija. C'est le monde du résultat. Après le monde de l'examen, après la mise à l'épreuve, c'est là que les résultats commencent, c'est là que tout commence. Donc quand quelqu'un est dans l'erreur, on peut utiliser ce verset pour faire vibrer les cœurs. Est-ce qu'il ne pense pas qu'un jour il sera ressuscité? Et le Coran ne se limite pas au terme mab'uthun. Déjà, si quelqu'un qui a iman, on lui dit qu'un jour tu seras ressuscité, c'est déjà suffisant pour qu'il se rende compte que Allah va me ressusciter, je vais donc être présenté devant Allah, j'aurai des comptes à rendre. Normalement, ce terme est suffisant. Mais Allah Azza wa Jal continue. Mab'uthun, li mab'uthun pour quand? Pourquoi? Pour quelle raison? Li yawmin azim. En un jour terrible. Allah Azza wa Jal rappelle que le jour où les êtres humains seront ressuscités, ce jour-là, c'est un jour azim, c'est un jour terrible. Et Allah Azza wa Jal donne encore une autre précision. C'était déjà suffisant de savoir qu'on est ressuscité. C'était déjà suffisant de savoir que ce jour-là est terrible. Mais Allah Azza wa Jal insiste pour que l'être humain comprenne que, attention, après ce dunya, il y a l'au-delà. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ça, c'est la phrase qui tue. Quand quelqu'un entend, comprend le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Est-ce que c'est pas magnifique ce verset? Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Écoutez ce verset, lisez-le et imaginez-vous déjà ressuscité debout devant Allah Azza wa Jal, Rabbul Izzah. Allah, le Seigneur des mondes, qui appelle chaque être humain par son nom, son prénom et le nom de son Père. Et que chaque action sera présentée et que l'être humain n'aura qu'à reconnaître ses actions. Et comme on avait vu dans le surat Al-Inshiqaq, il y a des gens qui, lorsqu'ils seront devant Allah, Allah va dire, tu as fait tel péché, est-ce que tu reconnais, oh mon serviteur? Le serviteur n'aura qu'à dire, oui, oh Allah, je reconnais. Mais Allah Ta'ala va dire, en ce jour, je te pardonne. Et personne ne sait qu'il a fait des péchés. Et dans d'autres hadiths, c'est commenté que quand Allah Ta'ala pardonne les péchés, le serviteur se prosterne devant Allah. Et de loin, les gens, ils ne savent pas ce qui se dit. Il croit que c'est un homme pieux, il se prosterne. Alors que ce sont tous ses péchés qu'Allah est en train de le pardonner devant le tribunal, devant son tribunal. Là, ça c'est la générosité d'Allah. Tandis que d'autres catégories de personnes, فَمَّمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, ce qu'on avait vu avant les vacances, les gens qui reçoivent Nasrullah As-Salam, le kitab, le livre dans la main gauche derrière le dos, hein, ça c'est un hisab difficile. Et ces gens-là n'auront pas de pardon de la part d'Allah. La première catégorie de gens, ils auront certes fait des péchés, mais Allah pardonne leurs péchés tout de suite. Mais l'autre catégorie, Allah n'accorde pas le pardon Et on avait vu les versets, la destination hein, qui leur est réservée, c'est le Jahannam. Yasla Sa'ira. Allah Ta'ala donnera aux anges de les amener vers l'enfer, vers le Jahannam. Donc, dans ces 5-6 versets qu'on a vus, il y a l'annonce, il y a une description, une catégorie de personnes qui fait un péché, qui fait une action qui déplaît à Allah. Deuxièmement, Allah décrit quel est ce péché. Pourquoi est-ce que ce péché-là est particulièrement pervers et perfide? D'accord? Et ensuite, Allah Azza wa Jal rappelle à ces gens-là, attention, un jour vous reviendrez vers moi. Attention, le jour vous reviendrez vers moi, c'est un jour terrible. Yaw min azim. Et attention, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe en ce jour aussi terrible? Les gens sont debout, seront ressuscités debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va pas aller plus loin d'aller dans d'autres versets, parce que, inshallah, comme on avait en train de faire Mashwara ce matin, on espère que ça se concrétise, inshallah, à partir de vendredi prochain, inshallah, si on finalise les autorisations, on va faire en sorte que les cours du vendredi soir soient accessibles aux dames également. Parce que, alhamdulillah, la mosquée Al-Madina de Latanié, c'est une des rares mosquées de Saint-Denis qui dispose d'une salle aménagée, avec tout le matériel audio, les baffes et tout et tout. Et, alhamdulillah, il y a beaucoup de facilité. On va concrétiser ça avec les responsables, inshallah. Et au cas où si ça se concrétise, on attendait en fait de finir un sourate, de démarrer un nouveau sourate pour démarrer un programme avec les dames. Donc si tout se passe bien, inshallah, on annoncera quelques jours avant une petite affiche et tout. Bon, pour que les gens du quartier, les gens qui habitent en face, il y a des dames en haut, en bas, hein, au moins même s'il y a 3 ou 4 personnes, c'est toujours profitable. Parce que très souvent, les dames disent que les messieurs viennent à la masjid, ils écoutent, ils profitent, nous on fait quoi? Nous on n'a rien. Il dit que pas tout le monde a accès à Internet, on ne sait pas télécharger, on ne sait pas écouter, puis on n'a pas, voilà quoi, c'est pas toujours évident, et ça remplace pas les, même, on va dire que la personne écoute, alhamdulillah, sur Internet, en MP3, en MP10, ce qu'il veut télécharger, c'est une bonne chose. Mais al-hudur, la présence dans une majlis où il y a kafara, à la fin, ça, faut demander les muftis, mais je ne pense pas qu'en téléchargeant, en écoutant, on a les mêmes récompenses, les anges qui viennent, qui accordent le pardon par la grâce d'Allah. Ah non. Ça, c'est vraiment pour le majlis. Celui qui vient, qui s'assoit, qui écoute jusqu'à la fin. Là, il y a kafara. Il y a le pardon des péchés à la fin de l'assemblée. C'est double cadeau. Un, on profite spirituellement, on écoute, on entend, on comprend. On va savoir qu'est-ce qu'on lit dans la salah, qu'est-ce qu'on entend quand l'imam lit. Et en plus, le cadeau de la fin en sortant. C'est comme si vous venez à un programme, en sortant, on vous donne chacun une voiture en cadeau ou alors un chèque de 10 000 euros. Dire Allahu Akbar, non seulement on est venu, on a écouté, on a mangé, on a bu, mais en sortant, on nous donne des cadeaux. Mais c'est quel roi nous reçoit? C'est le roi des rois, Rabbul Izzah. Rabbul Izzah, Allah Rabbul Izzah, qui nous accorde ses récompenses, ses fawaïd, quand on assiste à un majlis, et en sortant, Allah nous pardonne nos péchés. Donc, si nos sœurs également peuvent profiter, ce serait profitable. Il sera également hujja alayhinna également. Au moins, personne ne pourra dire qu'il n'y a rien pour les dames. Il y a celles qui veulent venir, qu'elles viennent avec le mahram, bien sûr, avec le mari, tonton, enfants, garçons, frères, ils viennent à la masjid, peuvent écouter, inshallah. On vous annoncera ça bientôt, si ça se concrétise. Donc on va, c'est pour ça que la prochaine fois, inshallah, on reprendra depuis le début, mais là on a voulu juste introduire la sourate al-mutaffifin. Mais un petit peu de tafsir, le kalima, le mot wail, al-wail, waw, ya et lam, c'est une mise en garde. Traduit en français, la traduction malheur, oh. C'est une mise en garde. Et les mufassirines disent que ce mot wail est utilisé à maintes et maintes reprises dans différentes sourates. Dites-moi un sourate ou un verset où il y a wail. Cher Issa. Wailul li kulli humazatil lumaza. Autre chose, fawailul lil musallin alladhina ma'an salatihim sa. D'accord ? C'est une mise en garde. Et les mufassirines disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce qu'on appelle un wa'id. Hein, une mise en garde. Allah Ta'ala utilise cette mise en garde lorsqu'on lui désobéit. Lorsqu'il y a eu désobéissance envers Allah. Et les mufassirines disent que quand on parle de désobéissance, man khalafa amrahu aw irtakaba nahyahu. La désobéissance, c'est pas uniquement je fais un péché. Très souvent, on se dit que désobéir à Allah, c'est faire un péché. J'ai bu de l'alcool, ou j'ai regardé quelque chose de pas bien, ou j'ai volé quelque chose, j'ai frappé, ou j'ai fait l'adultère, hein, qu'Allah protège, d'accord? C'est un péché. Non, le péché, certes, la désobéissance envers Allah, c'est l'accomplissement d'un péché, mais c'est également man khalafa amrahu. C'est celui qui va à l'encontre de ses ordres. C'est-à-dire la négligence. Celui qui néglige un ordre d'Allah, c'est également de la désobéissance. La personne qui, par exemple, ne fait pas la prière du matin ou une prière, etc., la personne a
enfreint les ordres et les lois d'Allah. Celui qui a fait un péché a enfreint les ordres d'Allah. Il y a d'autres personnes, et ça c'est le côté waswasa, le côté insufflation satanique, hein, qui fait que Shaitan, à un moment donné, il finit par persuader chaque personne qu'il est mufassir, qu'il peut commenter le Coran, qu'il est cheikh ou l'islam, qu'il est tout ce qu'il faut, il comprend la religion de lui-même. Alors il y a des gens qui se disent que c'est leur philosophie, leur approche de l'islam. Personne n'a jamais dit ça, il approche de l'islam. Pratique mon frère, pas du tout, t'approche de l'islam. Il y a des gens qui se disent que, ben, j'accomplis de bonnes actions. Et c'est ça l'essentiel. Maintenant, si je fais des péchés, de toute façon, Allah est pardonneur. Je suis là à la prière de Jumu'ah. Je viens le mois de Ramadan, je donne à la mosquée de l'argent, j'achète des Corans, je mets dans les mosquées, j'aide les pauvres, je fais, je donne, je lis, c'est bien. Maintenant, dans mon travail, bon, ben, écoutez, un emprunt avec la banque, il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, dans mes relations professionnelles, j'ai toutes mes collègues, ça va, tu vas bien, la bise, on machin, titi caca, on mange ensemble, et parfois plus il y a affinité, malheureusement, souvent il y a affinité, mais il finit par se réconforter en se disant que de toute façon, je fais de bonnes actions. À la prière, qui c'est qui est là, premier sauf? C'est toujours moi. Qui c'est qui donne de l'argent à la mosquée? C'est moi. Mon fils, il fait quoi? Il fait hafzul Qur'an. Mon frère, il fait quoi? Il fait si, ma famille, mon papa, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on finit par se réconforter, par se persuader qu'on est dans le droit chemin, et on finit par se dire qu'être un musulman, tout compte fait, c'est faire des bonnes actions. Et on oublie qu'être un musulman, c'est avant tout ne pas faire de péché. Et c'est aussi bête qu'une personne qui se dirait que adorer Allah, c'est se prosterner devant Allah. Sans pour autant réaliser que se prosterner devant Allah, adorer Allah n'aura un sens qu'à partir du moment où on fait le kufr. Il faut faire le kufr ou pas faire le kufr? Il faut pas. Si, le kufr bit-ta'arud, je voulais dire. J'allais compléter, je reprenais ma respiration. Le kufr bit-ta'arud, c'est-à-dire renier. Kufr, c'est renier. Renier ce qui est faux. Quand on lit le kalima, la ilaha illallah. La ilaha, il n'y a pas d'autre Dieu. Personne n'est digne d'être adoré. Illa, à part Allah. Il y a des gens qui se disent que c'est que Allah qui compte. Oui, on se prosterne, on fait l'adoration. Mais si en même temps, tu ne chasses pas de ton esprit tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, que ce soit divinité proclamée ou ancêtre, esprit, lune, soleil, pierre ou je ne sais pas quoi, tu n'es pas musulman. Tu peux avoir le plus gros tachnamas de l'univers qui fait tout ton visage, tu te prosternes du matin au soir, mais si en même temps tu crois à une seconde religion, tu n'es pas musulman. Et là aussi, je dis que c'est aussi grave, que c'est aussi, j'allais dire aussi bête que ça, mais malheureusement là-dessus aussi il y a des gens qui se trompent. Il y a aussi des gens qui pensent à une religion universelle. Je suis musulman, je suis dans le droit chemin, Inch'Allah, Dieu me fera accéder au paradis. Mon frère, il est de telle religion, il ira au paradis. Mon frère est de telle religion, il ira au paradis. C'est dedans, on aime Dieu, Dieu est amour, on aime Dieu, on aime les hommes. C'est suffisant. La wallah, la wallah, la yastawi hada wa hada. Celui qui dit Allah est unique, Al-Ahad, Al-Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakullahu, Kufuwan Ahad. Lui, il a compris La ilaha illallah. Celui qui dit qu'Allah, il a, na'oudou billah, un fils qui, etc. C'est plus du tawhid. Donc, pour adorer Allah, il faut avant tout renier ce qui est adoré en dehors d'Allah. Autrement, votre shahada ne compte pas. Pareil dans tatbiq, dans les a'mal, faire de bonnes actions, oui. Mais également s'éloigner des péchés. Et ne pas se dire que je fais de bonnes actions, وَهَذَا يَكْفِي. Et c'est suffisant, là, wallah. Autrement, c'est un waswasa, une insufflation de shaitan. C'est comme celui qui fait, tout le temps on dit cet exemple, fait deux pas en avant, et puis deux pas en arrière. Dans 10 ans, il est aussi. Il n'a pas avancé. Chaque fois qu'il fait 10 pas, il recule de 10 pas. Mais il est toujours au point zéro. Il n'a pas avancé. D'accord? Donc ça, il faut faire très attention. Ne pas se dire que je fais de bonnes actions. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également ne pas faire de péché. Après, il y a l'autre catégorie de personnes aussi, parce que Shaitan, il est malin. C'est un pervers, Shaitan. Il est fort. Non, excusez-moi, il n'a qu'à être Shaitan, il n'a qu'à être. Il y a des Shaitans qui sont faibles. Mais nous, on est très faibles aussi. Shaitan, il est, subhanallah, un jour, lisez le livre de Talbis et Iblis, traduit en français. Je sais pas comment ils ont traduit ça d'ailleurs. Ça se trouve même à La Réunion, ça se vend. Extraordinaire, exceptionnel ce livre, d'accord? Qui explique comment Shaitan travaille les esprits, comment Shaitan approche les gens en fonction de leur faiblesse, mais également de leur force. Vous avez pensé qu'en fonction de leur faiblesse, ben oui, Shaitan il voit que celui-là, il aime garde femme, ben attaque avec femme, ou celui-là il aime l'argent, attaque avec l'argent. Non! En fonction de vos forces, de vos atouts également. Lui c'est un savant, on va l'attaquer par rapport à sa science. Lui c'est un qari, lecteur du Coran, hop, c'est facile. On va l'attraper par l'ostentation, par riya, sum'a, shuhra, tout ça. Tac, dans la poche, plie Shaitan. Direct au four, comme une pizza, en 20 minutes c'est prêt. Il te fait un pizza qari, un pizza alim, un pizza celui qui donne sadaqa. Il fait ce à la carte. Si tu veux mon frère, je te le fais tout de suite. Talbis Iblis. Donc Shaitan, il agit également dans l'autre sens. Les personnes qui ne font pas de péché. Mais ils ne font pas de bonne action non plus. En fait, ils font quoi de leur vie? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils dorment la journée. Ils ne font pas de péché. Mais ils ne font pas de bonne action. Dis, ah, ta'al, salli ma'na. Viens faire la salat, le fajr. Comment? Tu es musulman. Tu as la foi dans ton cœur. Prosterne-toi devant ton Seigneur. Dis, écoute-moi. Mais ne vole pas. Mais ne fais pas zina. Mais ne sape pas en boîte de nuit. Mais ne bois pas l'alcool. Mais ne prend pas l'argent d'intérêt. Donc, moi, il est clean. Pas de problème. Jumaa, je suis là. Ramadan, je suis là. Le reste, laisse-moi tranquille, mon frère. Je ne fais pas de péché. Je ne suis pas comme l'autre hypocrite là qui vient à la mosquée, mais qui fait ci, qui fait... Moi, je ne fais pas de péché. Moi, je contrôle mes yeux, je contrôle ma langue, mes oreilles et tout. Je suis bien avec mes parents, je ne fais pas d'erreur. Je ne viens pas à la prière, je ne fais pas ma salade, mais je ne fais pas de péché, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis tranquille. Là aussi, c'est un piège de Shaitan. Mais ça, il y a moins ça. Ça, c'est moins fréquent. Ce qui est plus fréquent, c'est celui qui fait de bonnes actions et qui fait des péchés en pensant que la bonne action est suffisante. Vous savez, les ulama disent qu'il est beaucoup plus facile, on va dire dans l'autre sens, il est beaucoup plus difficile de résister au péché que de faire de bonnes actions. Vous savez, as-sabr, on s'éloigne un peu, la patience, il y a trois catégories de patience. As-sabr ala ta'a, as-sabr anil ma'siya, as-sabr fil ibtila. Il y a trois catégories de patience. Être patient dans les bonnes œuvres. C'est-à-dire que tu t'efforces à faire la salah. Ah, t'es fatigué, c'est couché tard, mais non, je viens à la prière en congrégation à la mosquée. Hein, il est dû à jeûner le lundi et le jeudi, je le fais quand même. Sunnah de notre prophète, il y a annonce de bonnes nouvelles, etc. Ça c'est sabr ala ta'a, s'efforcer, être patient dans les bonnes œuvres. On crase notre nafs et on fait la bonne action, même si elle est dure. Et puis il y a sabr anil ma'siya, faire preuve de patience face aux tentations, face au péché. Et les ulama disent que, certains savants disent que ça c'est le plus dur. Parce que faire les bonnes actions, il y a plein de gens qui vont faire les bonnes actions. Mais s'éloigner des péchés, ça c'est compliqué. Parce que quand on s'éloigne, on veut s'éloigner des péchés, on doit faire passer, on doit faire abstraction de nos plaisirs. Plaisir de la bouche, plaisir des yeux, plaisir des oreilles, plaisir du corps, etc., etc. C'est-à-dire, on fait passer le droit d'Allah avant notre droit. Et ça, c'est le plus dur. Mais c'est ça le plus beau. C'est ce qu'Allah attend du mu'min. Ça, c'est le but de la vie. Le but du ibadah, c'est faire passer Allah avant nous. Quand le prophète m'a dit que celui qui aime le prophète d'Allah, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Le vrai muhabba du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là il y en a qui vont foncer les sourcils. C'est pas fait maouloud. La wallahi l'azim wa rabbul izza. Le vrai muhabba du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est tiba' sunna toute l'année. Toute l'année je l'aime mon prophète. Toute l'année. C'est pas qu'arrivé le 12 Rabi'ul Awwal, je vais faire hafla. Je vais rassembler les gens, on va chanter, on va faire. La wallah. Sahaba n'ont pas fait. Qui aimait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Abu Bakr? Qui aimait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Omar ibn al-Khattab? Abu Bakr radhiyallahu anhu qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'émigration, al-Hijra, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des fois il marchait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des fois il marchait derrière, des fois à droite, des fois à gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Abu Bakr, en ce sens, pourquoi tu marches de manière aussi étrange, hein, tu changes de position? Dieu prophète d'Allah, je marche auprès de toi, j'ai peur qu'un ennemi se présente devant. Donc je me mets devant. Moi, s'il envoie une flèche, c'est moi qui prends la flèche. Et puis tout d'un coup, j'angoisse. Si l'ennemi arrive de derrière, je viens derrière. S'il y a une flèche, c'est moi qui le prends. À droite, à gauche, parce que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Si moi, Abu Bakr, je meurs, c'est un homme qui meurt. C'est toi qui meurs. C'est la propagation de la religion qui est en danger. Ça, c'est muhabba. Thani athnaini idhuma fil ghar. L'honneur qui était fait pour Abu Bakr Siddiq d'être cité dans le Coran et d'être lu jusqu'à la fin des temps. ثانية اثنين إذ هما في الغارب يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Il a eu cette, subhanallah, cette izza, cette honneur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à l'amour qu'il portait au prophète. Un homme comme Abu Bakr al-Siddiq qui aimait le prophète plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que sa famille, plus que ses parents. Lors du décès du prophète sallam, logiquement, en 12 Rabi'ul Awwal, un an après le programme, Abu Bakr al-Siddiq réunit Ahl al-Madina et ils font un programme de la masjid, ils font les salat al-Nabi. Là, il ne l'a pas fait. Omar ibn al-Khattab, il ne l'a pas fait. Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Hassan, Hussein, personne ne l'a fait. Les grands savants de l'islam, grands savants, l'époque des tabi'in, Sba' al-Tabi'in, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifa, ils n'ont pas fait. Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, toutes les funun, toutes les branches, ils n'ont pas fait. Pourquoi moi je le fais au XXe siècle? Est-ce que je... Maintenant, si je me dis que, écoutez, à Bukhari, il n'avait pas compris. Muslim, il n'avait pas fait assez d'études. Ibn Kathir, il dormait quand on faisait un dars, peut-être, il a oublié quelque chose, etc., etc. Maintenant, si vous pouvez réunir tout ça, je suis d'accord. Si quelqu'un se sent supérieur à tous ces ulama, ça m'a chagrin. Maintenant, il ne faut pas se dire non plus, je fais parce que Fundi fait, je fais parce que Cheikh il fait, je fais parce que Mufti fait. Là, Wallah, devant qui on rencontre? Devant Allah. C'est pas lui qui fait ta religion. Cherche le haq. Tu vas voir la personne qui te dit on fait ça, il dit khalas, donne-moi les preuves. Donne-moi les preuves que nos pieux prédécesseurs l'ont fait. Tu me donnes les preuves, je le fais. Si tu me dis que je le fais parce que mon papa il était fait, mon grand-père faisait. Bas. Le prophète nous a demandé de le suivre, lui et ses sahaba, qui sont comme des étoiles, pas ton grand-père. J'espère qu'il soit comme une étoile, mais pas à la même intensité que les sahaba en tout cas. Mes chers frères, on doit bien comprendre. Là aussi, c'est un exemple, on parle du Mawloud. Mais, alayha faqis, avec ça, par analogie, n'importe quelle action de la religion, n'importe quelle action du dîn, si on n'a pas kalamullah, kalamur rasoul comme preuve, mes chers frères, ne le faites pas. Si les sahaba ne l'ont pas fait, mais nous, on est qui pour faire? Il y en a qui se disent que ça, c'est témoigner notre amour pour le prophète sallam. Mais les gens qui étaient les plus proches de lui, chronologiquement et spirituellement, et qui avaient même les liens de sang à Ahlul Bayt, ils ne l'ont pas honoré de la sorte. Pour eux, ce n'était pas l'honoré, ça. Si le prophète attendait ça de lui, il nous aurait cité un hadith au moins, que après ma mort, n'oubliez pas de faire une nuit d'invocation lors de cette date. Là, Wallah, il ne l'a pas fait. Le fait de dire ces paroles, ce n'est pas que lui, il appelle vers telle idéologie ou il est contre. Non! On veut être cohérent. On est héritier du din al-islam révélé par Allah, le prophète sallam, transmis aux sahaba, aux tabi'in, aux tabi'in, chaîne de savants jusqu'à nous. Pratiquer la religion, c'est pratiquer comme les pieux prédécesseurs l'ont fait. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs, c'est mon siècle à moi, ma génération, les sahaba, ensuite ceux qui viennent après, ensuite ceux qui viennent après. Ah, donc ça c'était la petite parenthèse qui est plus que nécessaire. Et je vous dis, je parle du Mawloud, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres choses, si je le dis, on risque d'avoir de gros problèmes. Il y a des gens qui appellent vers la sunna, qui disent il faut faire la sunna, faut porter la barbe, il faut s'habiller comme ça, il fait comme ça. Mais regardez comment il fait tel ibada, il le fait d'une manière que personne dans l'histoire des savants de l'islam n'a fait. Personne, à part depuis l'époque abbasside. Depuis le Dawla Abbasiyya, depuis la moitié du Dawla Abbasiyya, là il y a eu un début d'innovation, mais qui avait un but noble. Mais qui ensuite, il y a eu détournement de shaitan jusqu'à ce qu'on invente n'importe quoi. Et il y a des actions qu'on ne retrouve pas du tout, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et les gens le font. Allah musta'an. Et les gens ne font que suivre. Chers frères, ce din est accessible à tout le monde. N'importe quelle personne. C'est-à-dire, il n'y a pas de clergé. Les savants sont les mardiens. On va vers eux, on pose des questions. Mais voilà, poser des questions, mais qu'on pose des bonnes questions. Ce din n'est pas un héritage culturel. Ce ne sont pas là des traditions, non. C'est là un cadeau de la part d'Allah, un amana qu'Allah nous a donné, et on doit le faire comme Allah Ta'ala nous a. Sinon, pourquoi le prophète a pris le soin de dire « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun » Celui qui apporte dans ma religion quelque chose que je n'ai pas fait, il est rejeté. Il a pris soin de le dire, pour qu'on comprenne bien que jamais on ne doit s'écarter de la sunna. Pour ça, il me dit, je vous ai laissé deux choses. Je vous ai laissé deux choses. Celui qui s'accroche à ça, il ne sera jamais, jamais, jamais égaré. Kitabullah wa sunnati. Le kitab d'Allah, c'est-à-dire le Coran et ma sunna. Celui qui s'accroche à ça, regarde ni à droite, ni à gauche, ni devant, derrière, il est dans le droit chemin. Il est à la sirat al-mustaqim. Promesse du prophète alayhi salatu wa salam, promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on l'attire Allah wa ta'ala al-Rasul. Donc pour revenir, attention donc, wail, mise en garde contre les personnes qui transgressent les ordres d'Allah. Et transgresser les ordres d'Allah, c'est négliger les bonnes actions, négliger ce qui nous incombe, mais c'est également accomplir des péchés. Wailul lil mutaffifin. Mutaffifin, en français, c'est traduit par les fraudeurs, aux fraudeurs. Non, quand on parle de fraude, pour nous, c'est synonyme de vol, de tricherie, d'accord? Mais on va voir que ce n'est pas uniquement celui qui vole, qui triche quand il pèse des fruits, des légumes, des graines ou des choses avant. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Ça, c'est l'exemple cité, comme on a dit, l'exemple qui est accessible à tout le monde. Mais ensuite, il y a une analogie à faire sur les différentes situations de la vie. Et celui qui voit que son comportement est comme celui-là, qui exige tout, mais qui en contrepartie est malhonnête envers les autres, cette personne est un mutaffifin. Il est un fraudeur. Alors, la définition, alladhina idha aktalu 'ala an-nas yastawfun, hein, ceux qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, non, qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, comme on avait expliqué tout à l'heure, on va aller un peu plus vite. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ et qui, lorsque même mesure ou pèse pour les autres, leur cause perte. Donc on avait compris que c'est des gens qui exigent tout, mais quand c'est eux qui doivent aux gens, là ils trichent, d'accord? Et les ulama disent que cette personne-là, il y a deux défauts en eux. Premièrement, ils sont intransigeants sur leurs droits. Ils ne veulent rien laisser. Si vous me devez ça, vous me le remboursez. Et c'est pas négociable. Il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion, il n'y a aucun sentiment humain. Et il y a al-bukhl également en lui. L'avarice. D'accord? Il y a ce côté aussi où la personne triche et trompe son prochain. Et là, le Mufassir dit que cet exemple qu'Allah Azza wa Jal a cité est certes valable pour la peser lors de la vente et l'achat, mais également fayuqasu alayhi kullu ma ashbahahu. C'est également le cas pour toute personne qui exige, mais qui en contrepartie ne donne pas. Il y a des gens qui passent leur temps à casser le cœur des autres, à dire des vérités, à briser le cœur de son prochain avec une franchise qu'il n'en est pas. Hein, c'est plus de la grossièreté ou autre chose, mais si une personne lui dit quelque chose, il est immédiatement vexé, il n'accepte pas qu'on l'insulte. Lui aussi, il est un mutaffif. Il y a des personnes qui passent leur temps à faire ribat et bohtan et namima qila wa qal. Rapporter, colporter, médisance. Mais si quelqu'un a osé dire quelque chose sur lui ou sa famille, là il se braque tout de suite, va chercher les comptes. Pourquoi tu as osé parler des amondo? Alors que lui il passe l'essentiel de son temps à le faire. Il fait partie des mutaffifin. Et l'exemple, pour ça on préfère laisser pour la prochaine fois, l'exemple essentiel que le Mufassir a cité et qu'il va développer, c'est le cas du mari. Alors là, ça nous fait réfléchir, qui exige de sa femme tous les devoirs. Il veut que sa femme soit impeccable à la maison. Que quand je rentre, il faut que ce soit comme ça. C'est-à-dire tout ce qu'il a droit, il le veut. Mais de son côté, il ne donne pas les droits à sa femme. Lui aussi, c'est un mutaffifin. Il est exigeant par rapport à sa femme, mais quand sa femme a besoin de quelque chose, quand la femme a besoin de ses droits à elle, là le monsieur est absent, là le monsieur ne donne pas, il ne veut pas dépenser, il ne veut pas acheter telle chose pour la maison, il ne donne pas les droits que la femme mérite, alors que lui il est exigeant et intransigeant par rapport aux devoirs de sa femme. Il dit que ça aussi, ça fait partie des mutaffifin. Également, ce père qui est exigeant vers son enfant, il exige respect de ses enfants, que ses enfants soient vraiment respectueux de tous ses ordres, recommandations, etc., interdits, etc. Enfant modèle, parfait. Mais en contrepartie, ce papa ne fait rien pour son enfant. Il lui a pas vraiment donné l'éducation qu'il faut. Quand l'enfant a besoin d'un peu de temps de la part du papa, il, le papa n'est jamais présent, il est occupé. Pas qu'il est occupé, il préfère regarder son match au football à la télé, il préfère faire ci, faire ça, traîner avec ses amis dehors, aller faire ça, mais jamais présent pour ses enfants. Il fait partie également des mutaffifin parce qu'il exige son droit complet. Je veux mes droits de papa ou de maman. Mais je ne donne pas le droit à la personne qui est en face quand c'est moi qui dois donner le droit. Donc, je pense qu'Inch'Allah, la prochaine fois, hein, on va essayer de développer les différents cas de figure des mutaffifin et on va voir la mise en garde qu'il y a contre ces personnes-là. Une petite parenthèse, vous hein, voyez, lorsque... Ça c'est une éducation psychologique également en islam, hein, que le musulman doit toujours aimer pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Toujours aimer pour son prochain ce qu'on aime pour soi-même. Ça fait partie des qualités de la foi. Et donc, ne pas, on ne doit pas faire un mal à notre prochain qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Et là, nous voyons cette psychologie, subhanallah, cette méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam, face à ce jeune homme qui demandait l'autorisation de faire le zina. Un jeune homme va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète d'Allah, donne-moi l'autorisation de faire l'adultère. Les sahaba, ils entendent, ils disent que soit la personne, quelle audace de demander ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont prêts à l'exclure, à le chasser de la masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que ce jeune homme-là est malade. C'est une maladie spirituelle. Son cœur penche vers l'adultère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas de cette personne, le prophète aurait pu dire à ce jeune homme, Allah ta'ala dit au Coran, wa la taqrabuz zina. Le prophète aurait pu dire que lors du voyage nocturne, hein, il y a eu telle chose, j'ai vu hein, les zunats, les gens qui faisaient le zina, ils étaient dans des fours hein, où il y avait un feu qui brûlait et leur corps montait et redescendait, mis en garde, les adhabs, etc. Il aurait pu utiliser ce uslub, cette méthode. Non. Le prophète a compris que ce jeune homme-là, il a une maladie, il a des passions et il ne peut pas contrôler ses passions. Le prophète lui a posé la question, est-ce que tu serais d'accord que quelqu'un fasse adultère avec ta sœur? Il a dit au prophète d'Allah, jamais. Qui c'est qui accepterait une telle chose? Est-ce que tu accepterais que quelqu'un fasse l'adultère avec ta maman? Non, prophète d'Allah, jamais ma mère. Si un homme ose s'approcher de ma maman, est-ce que tu serais d'accord que quelqu'un, je ne sais pas si il a dit pour la fille aussi, hein, fasse adultère avec ta fille, avec ta tante? Il dit au prophète d'Allah, jamais. Le prophète veut lui faire comprendre avec méthodologie, pédagogie, que toi, tu veux abuser, pas abuser, mais tu veux faire l'adultère avec cette fille. D'accord? Mais sache que cette fille-là, c'est la fille d'un tel. Ou alors, c'est la maman d'un tel. Ou alors, c'est la sœur d'un tel. Ou alors, c'est l'épouse d'un tel. Et toi, tu n'aimerais pas qu'on touche à ta maman, ta sœur, ton épouse, ta fille, ta tante, à ta nièce. Mais les gens sont pareils. Et là, ce jeune homme a compris que quand je fais ce péché, certes, j'ai la passion, c'est un plaisir, mais je suis en train de porter atteinte à une tribu tout entière, à une famille. Donc, c'est une action qui est détestable. Avant de lui faire comprendre que ça déplaît à Allah, que ton iman quitte ton cœur quand tu fais ça, etc., etc., le prophète lui fait comprendre que c'est quelque chose de détestable pour la nature humaine. Et là, ce jeune homme a compris. Et il a dit au prophète d'Allah, demande-toi qu'Allah me protège, etc. Et depuis ce jour-là, cette action, ce péché est devenu le péché le plus détesté à ses yeux. C'est une méthodologie que l'islam nous apprend, aimer pour son prochain ce qu'on aime pour nous-mêmes. Si nous, pour revenir au mutaffifin, on n'aime pas que les gens trichent avec nous, ben nous ne devons pas tricher envers les gens. Si on n'aime pas que les gens fassent un médisant sur nous, comme sur moi, comme sur madame, comme sur mes enfants, et comme sur ma famille, vous aussi ne parlez pas sur les gens. Si j'aime pas que ma femme me manque de respect, moi aussi je ne dois pas lui manquer de respect. Si je n'aime pas que mon enfant, mon fils me manque de respect, moi aussi je ne dois pas lui manquer de respect hein, en étant négligent envers ce qu'il mérite. Donc ça c'est une grande, grande, grande leçon d'humanisme, une grande leçon de civilisation que ce verset Wallul Mutaffifin nous fait comprendre et que les autres hadiths également nous enseignent. Et là nous voyons toute la grandeur, la splendeur, la beauté de l'islam, tant dans les relations entre le serviteur et son créateur, mais également dans les relations entre les hommes, entre les êtres humains, pour parvenir à une société où tout le monde vit de manière épanouie avec un maximum d'entente et de muhabba. Donc inshallah, on va pas développer plus que ça. On va garder les versets de mise en garde sur la résurrection la prochaine fois inshallah, en espérant qu'on puisse inshallah concrétiser ce projet. Le projet est en marche pour les Lataniers, mais également pour la masjid de Montreuil. La masjid de Montreuil, on fait le programme un mardi sur deux sur la résurrection. Le chapitre de l'au-delà, là aussi c'est prévu avec le responsable de la mosquée. Il y a une salle, il y a tout ce qu'il faut, inshallah. Les mardis soirs également, les dames pourront accéder à la masjid. On essaie quand même de permettre à nos mères, à nos soeurs également, de pouvoir assister en espérant qu'Allah utilise ces assemblées comme un motif de hidayah pour nous-mêmes et pour tout le monde. Qu'Allah facilite. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Zakum khair.